Jean, qui est un pèlerinage diocésain, Notre-Dame-des-Bois. Et voilà, donc ce qui fait que, à plus d'un titre, cette année mariale pour nous, frères, compte beaucoup. Nous avons vécu il y a quelques années une année mariale en congrégation, mais le fait que le diocèse aussi, et on est dans une église diocésaine, on est bien dans un lieu, et on y est bien dans ce lieu en plus, soit dans cette démarche-là, pour nous les frères en tout cas, ça nous relance, ça nous invite à méditer et à contempler Marie. Alors j'aimerais peut-être davantage méditer sur Marie et... Ok, carte à 40 minutes. Ok, ça marche. Marie et la fécondité. Pourquoi Marie et la fécondité? Ceux qui ont fait des études de théologie, il y a déjà quelques années, pour moi, puisque je fête mes 25 ans de sacerdoce cette année, donc ça va faire... Une chose est marquée. Dans toutes les vérités de foi, dans tous les dogmes qui traitent de la Sainte Vierge, en fait, d'une manière ou d'une autre, soit ils sont orientés vers la maternité divine, soit ils découlent de la maternité divine. Ce qui veut dire que, au fond, au cœur même du mystère de Marie, il y a un mystère de fécondité. Et un mystère de fécondité, c'est bien souvent que dans les fêtes mariales, par exemple, on a la lecture de l'Annonciation. Hein, on fait, c'est intéressant, cette rencontre, elle a lieu au jour de la nativité. La nativité, c'est par excellence l'expression de la fécondité. Pas la seule, mais c'est une expression de fécondité. Et donc, de se poser la question, il faut que... comment est-ce que nous-mêmes, à l'école de Marie, on peut être aussi dans cette démarche de fécondité et faire le lien, moi j'aimerais bien, en tout cas, je tâcherai dans ces quelques méditations, ces quelques mots, mais je tâcherai de faire le lien aussi avec notre engagement missionnaire, notre vie pastorale, etc. Chacun laïc ou clair, mais chacun dans son secteur, de voir comment on peut être au service de la fécondité. Comment on peut soi-même, en contemplant Marie, nous relancer dans l'amour filial envers la Sainte Vierge et du coup de reprendre conscience combien nous sommes appelés à porter du fruit et un fruit qui demeure, mais aussi combien dans notre responsabilité à chacun, nous sommes invités aussi à ce que d'autres portent du fruit. Parce que c'est au cœur du mystère de Marie, c'est un mystère de vie. Et je ne sais pas si vous avez été marqué, moi j'ai prêché sur ça à l'Assomption le 15 août, dans les lectures, vous avez trois femmes enceintes. Vous avez Marie et Élisabeth, et puis vous avez la femme enceinte de l'Apocalypse, hein, dans les lectures de l'Annonciation. C'est-à-dire que vraiment cette question de fécondité, de portée du fruit, et c'est pas pour rien que Marie, mère de Dieu, est au tout début de l'année civile. Je trouve que c'est mettre chaque année civile sous le regard de Marie comme celle qui nous aide à donner un fruit en abondance. Vous voyez, c'est celle qui nous déploie au fond ce que nous sommes. Alors, quelques points comme ça que je vais vous donner pour votre méditation, mais comment est-ce qu'elle est, elle nous emmène dans une école de fécondité, comment elle nous emmène à porter du fruit? Premièrement, être disciple de Marie, et nous, chacun est disciple de Marie et de Jésus, hein, nous portons le beau nom de serviteur de Jésus et de Marie, je trouve que c'est protéger les commencements. Être au service de la fécondité, c'est protéger les commencements. C'est intéressant de voir que dans l'oraison de ce jour, on parle justement des commencements du salut. La nativité de Marie marque le commencement du salut. Mais être attentif pour porter du fruit, ça commence déjà par quelque chose d'assez fragile, les débuts. Les débuts. Et protéger les débuts d'une initiative pastorale, protéger les débuts d'une rencontre, protéger les débuts d'une préparation au mariage, d'un processus. Et à travers ça, de favoriser les processus. Vous vous rappelez, le pape François nous a dit qu'il fallait privilégier le temps et l'espace. Alors ça peut paraître assez philosophique. Il faut privilégier le processus au pouvoir. Moi, je le comprends comme ça. C'est-à-dire qu'il faut mettre en route. Et parce qu'on met en route, eh bien, il y a du fruit qui se donne. Parce qu'on met en route, il y a une énergie qui se déploie, quelque chose de beau qui habite le cœur de ceux avec qui nous avons contact au quotidien et qui permet, au fond, d'arriver à ce que la personne advienne à elle-même, et de lancer des processus, de ne pas tant être attaché à l'espace. Le pape François le rappelle, alors, c'est compliqué pour nous catholiques, parce que toute l'Église, elle est basée sur un quadrillage de l'espace. Tous les quadrillés, on dit au sait, sur toute la Terre, tout est quadrillé, etc. Je ne sais pas si le pôle Nord, ça doit faire partie certainement d'un administrateur apostolique, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a là-bas, mais tout est... Ce qui est compliqué, parce qu'on a beaucoup comme logiciel dans la tête l'espace. On n'a pas trop le logiciel du temps. Alors que, par définition, quand on voit Jésus dans son ministère, il initie un certain nombre. C'est des rencontres. C'est le mystère de la rencontre. Il y a des gens, ça me marque beaucoup, il y a des gens qu'il ne reverra plus jamais. Mais de même aussi dans nos contacts, dans nos ministères, que ce soit laïque ou clair, il y a des personnes qu'on rencontre qu'une fois. Mais on sait bien combien cette rencontre a été décisive. Comme au temps de Jésus, comme chaque rencontre. Et même si on parle peu des rencontres, si ce n'est avec Élisabeth, de la Vierge Marie, mais on peut supposer, il n'est pas complètement aberrant de supposer, que chaque rencontre avec Marie était décisive. Parce qu'elle renvoyait aussi à ce qui nous habite. Elle renvoyait une expérience spirituelle. Évidemment, la visitation, on voit, c'est ce que me disait le père des Nénanges, qui avait toujours des expressions assez bien à lui, etc. C'est le premier voyage missionnaire de Jésus. Il disait ça comme ça. Et donc, c'est vrai, c'est que par Marie, il y a quelque chose en l'autre qui est réveillé, quelque chose en l'autre qui advient. Alors, je trouve ça intéressant de dire on est là pour protéger les commencements et une grossesse, et aujourd'hui nous fêtons le terme d'une grossesse. Une grossesse, par définition, c'est un processus. C'est un processus. Et quand vous voyez 40 dans la Bible, vous le savez bien, ceux qui sont peut-être plus férus d'exégèse, etc., mais 40 dans la Bible, 40, c'est 40 semaines d'aménorrhée. 40 semaines d'aménorrhée, c'est-à-dire, c'était le temps qu'il fallait pour calculer une grossesse. Mais donc, du coup, quand vous voyez 40 dans la Bible, c'est-à-dire une nouvelle naissance. 40 ans, 40 jours, etc. Il y a beaucoup de 40. C'est une nouvelle naissance. Et donc, de dire que aussi à travers cette protection des commencements, cette initiation des processus, il y a quelque chose qui naît, qui advient. La fécondité, un autre point, la fécondité, c'est une expérience spirituelle. Marie a fait une expérience spirituelle qui s'est incarnée, qui n'est pas restée que spirituelle, mais d'abord il y a quelque chose de l'expérience spirituelle. Et je trouve parfois dommage que nous n'ayons pas assez à cœur de favoriser, en tout cas, l'expérience spirituelle, par définition, elle est le fruit de la grâce. C'est la grâce qui agit, je veux dire, nous. Mais de se dire d'abord de mettre tout pour prédisposer à ce que la grâce advienne, à ce que la grâce agisse. Et par exemple, ne jamais terminer une rencontre avec quelqu'un sans un temps de prière. Oui, on n'est pas là pour faire fonctionner une machine. Quelle qu'elle soit, communauté religieuse, diocèse, paroisse, quoi. C'est pas d'abord ça. C'est d'abord, on est au service du mystère de la rencontre. Et ce mystère de la rencontre, il est le lieu de la grâce. Et donc, se dire, ça n'a de nos vies n'ont de sens, nos métiers n'ont de sens, que pour ça. Je dis ça parce que parfois, on voit l'Église beaucoup plus sous l'angle moral. Alors oui, le fait d'avoir fait une rencontre, évidemment, ça va changer la manière d'agir. Mais c'est comme une conséquence. Mais aujourd'hui, je vois qu'il y a d'autres réalités qui paraissent comme ça dans le monde plus spirituel, en tout ce qui est autour du bouddhisme, autour du yoga. Là, je lisais un article sur une application dont vous avez peut-être entendu parler, Petit Bambou. Petit Bambou, qui est une application de méditation. Et donc, qui quand même recueille 4 millions d'inscrits en 4 langues. Et ça a été initié par des Français. Ce qui est assez intéressant de réfléchir là-dessus. Il y a une quête spirituelle de certains de nos contemporains, pas tous, loin de là, mais ce n'est pas forcément vers l'Église qui se tourne. Parce qu'ils voient peut-être plus vers l'Église, dans l'Église, un code moral. Et non pas d'abord une expérience de Dieu. Et ça, je pense que quand on est disciple de Marie, quand on se met à l'école de Marie, c'est vraiment mettre le cap sur l'expérience de Dieu. Marie a fait une expérience de Dieu. Et une chose aussi qui me marque, vous connaissez par cœur le récit de l'Annonciation, mais il y a peut-être deux mots auxquels on ne prête pas forcément attention. Et l'ange entra. L'ange entra. Eh oui, d'accord, l'ange est entré chez elle. Bon. Ça veut dire que Marie était chez elle. Mais chez elle, pas seulement dans sa maison. Marie habitait son cœur. Marie était dans une attitude contemplative. Et ça me fait dire quelle est la dimension contemplative de nos vies. Et pour vous qui êtes en ministère paroissial et sans cesse tellement admiratif de vos vies et de votre engagement, etc., sans cesse sur la brèche, quelle est la dimension contemplative de vos vies? Et si l'ange, on sait, les anges peuvent venir vous visiter, les 6 anges, est-ce qu'ils vous trouveront habitant votre cœur? Est-ce qu'ils vous trouveront derrière ça, il y a cette disponibilité intérieure, vous voyez? Il y a cette disponibilité de fond. Et qui est vraiment une attitude mariale. Qui est vraiment une attitude mariale. Derrière ça, il y a l'acceptation de l'imprévu de Dieu, d'une certaine lâcher prise, de s'opposer au contrôle. Que quelque part vos engagements, nos engagements, nous échappent dans le sens. C'est d'abord le lieu de la grâce. Si on ne vit pas comme ça, du coup, on vit comme des anxieux, des angoissés. Des angoissés parce qu'il faut absolument arriver à tenir la maison. Et donc, non, je pense qu'au contraire de ce lâcher prise qui s'oppose au contrôle est vraiment une attitude mariale. Je pense à, par exemple, j'étais pendant un temps dans un autre diocèse, etc., comme aumônier d'étudiants, et j'étais avec un autre prêtre aumônier, etc. Et parfois, j'étais un peu perplexe. Bon, à peine un monsieur psychologue à la retraite disait, ben voilà, moi je viens, si vous pouviez donner mon téléphone pour que les jeunes étudiants se mettent en contact avec moi, s'ils ont des questions, c'est la première année, mais qui te dit familial, etc. Parfois, certains peuvent être bousculés, veulent avoir des remarques. Et le prêtre dit non. Je veux qu'il n'ait que mon téléphone. De façon à ce qu'il y ait, s'il y a des vocations, il m'appelle. Vous voyez, ça c'est pas une attitude mariale. Ça c'est une attitude de peur. C'est une attitude de contrôle, c'est les doigts crochus. Les doigts crochus où je veux que ça dépende de moi. Or, dans la vie de Marie, qu'il m'advienne selon ta parole. Qu'il m'advienne selon ta parole. Et c'est vraiment cette confiance, cet abandon qui est caractéristique. Un autre point peut aussi vous aider pour méditer sur la fécondité, c'est la rencontre de Dieu passe par des visages. C'est le mystère de la visitation. Et derrière ça, de ce que je peux comprendre, des fraternités missionnaires de proximité. La difficulté, vous voyez, avec le regroupement des paroisses, c'est qu'il n'y a plus de visages. Il n'y a plus de visage, c'est-à-dire que Et les pasteurs n'ont pas forcément plus de visage, n'ont pas beaucoup de visage stable en face d'eux, etc. Et ni les fidèles, visage stable de ce pasteur. Et ça, c'est une difficulté, parce que notre religion est une religion des médiations. Nous sommes la religion des médiations. Nous sommes la religion de la rencontre, et de la rencontre avec une personne. Et cette personne, le Christ évidemment, mais comment Marie, personne humaine, passant la rencontre avec Marie, il y a quelque chose de l'expérience de Dieu qui est donné. Et du coup, de se soi-même poser la question, être attentif à ces rencontres personnelles, de se dire que par la rencontre avec eux, il y a un enjeu. Pour certains, c'est la première fois qu'ils rencontrent soit un prêtre, soit un diacre, soit un laïc en mission ecclésiale, etc. C'est la première fois qu'ils... Voilà, c'est... Et du coup, dans chaque rencontre, il y a un enjeu, même si l'autre est habitué à voir, mais de prendre conscience que dans nos rencontres, de ne pas les vivre de façon horizontale, banale. Non. Chaque rencontre, c'est un commencement. Chaque rencontre, il y a le commencement du salut. Hein, comme il est dit dans le réseau d'aujourd'hui. Et donc, je trouve que cette attitude mariale de donner, de privilégier les rencontres, plus que le fonctionnement, mais de privilégier du temps avec l'autre, et on sait combien c'est complexe, j'en ai bien conscience, mais c'est vraiment par là que le mystère de Dieu arrive. Nous sommes la religion, nous ne sommes pas la religion du livre, nous sommes la religion des personnes. Ça, c'est absolument clair. Parce qu'on dit, oui, les religions du livre, on met les chrétiens dedans, mais pas du tout. Nous ne sommes absolument pas la religion du livre. Oui, et à tel point qu'il y a quatre évangiles, et que ce sont des témoignages. Et donc, c'est d'abord, et qu'est-ce qu'on voit dans les quatre évangiles? D'abord des rencontres, on ne voit que des rencontres. Et donc, de se laisser disposer, se laisser bousculer, de se laisser, qui est une attitude mariale, au fond, de se laisser... décalé dans, dans son agenda, pour favoriser des rencontres. Pour favoriser des rencontres. Pas pour rester, de refonctionner, faire fonctionner comme ça fonctionnait avant, mais d'être attentif aux rencontres. Et tel que je comprends, en tout cas, les fratères, ici, les fraternités missionnaires de proximité, c'est ça qui est en jeu. C'est que... y ait un visage concret de l'Église pour ceux qui sont proches, géographiquement, parce qu'on a perdu une certaine proximité géographique de par l'absence de prêtres, de par la déchristianisation, de par beaucoup de choses, etc. Bon, c'est pas le lieu pour faire l'étendue des causes, etc. Mais il y a une proximité géographique alors que nous sommes la religion de l'incarnation. Et nous sommes la religion de la proximité. Dieu s'est fait proche. On ne peut pas plus proche de nous qu'un Dieu qui a pris notre nature humaine. C'est impossible. Dieu s'est fait proche. Et donc, nous aussi, comme dans cette année mariale, de se dire, tiens, de quelle manière je peux incarner cette proximité? De quelle manière je peux, en toute simplicité, me laisser approcher? Est-ce que je suis abordable? Déjà de ça, je suis dans mon visage. Et puis, est-ce que je suis attentif à ceux qui peuvent venir frapper à la porte de la paroisse, du presbytère, etc., des services, est-ce que je suis... Et on sait très bien que c'est, d'une certaine manière, vivre la rencontre, c'est un certain mystère pascal. Il y a une certaine mort. C'est pas spontané. Ça ne nous est pas, je dis plus, là j'ai dents, parfois n'aidant pas, je ne sais pas comment il faut dire, mais c'est peut-être plus difficile de sortir de soi-même pour aller à la rencontre de l'autre. C'est plus compliqué. Donc il y a quelque chose d'une dimension pascale. Mais évidemment, quand on dit une dimension pascale, forcément, il y a une dimension mariale. Marie, elle était là debout au pied de la croix. Donc c'est elle qui, sa vie durant, je me suis dit, tiens, mais ça, qu'on pense à Marie. On se met à la place de la Vierge Marie, sa vie durant, elle était appelée à se à être décalé, à se laisser bousculer, à, il sera le sauveur, etc. Puis tout d'un coup, c'est la croix, etc. Comment est-ce que ces paroles de l'ange retentissent au pied de la croix? Comment est-ce qu'elle a accueilli dans la foi cette absurde de Dieu? Vous voyez, c'est accueilli comme un mystère. Et ça, je pense, c'est important. Soit nos vies soient absurdes, soit nos vies soient mystères. Nous qui sommes ici, nous avons fait le choix du mystère. Nous avons fait le choix du mystère. Nous avons fait, et dans mystère, vous savez, ça vient du nu en grec, etc., qui veut dire fermé, c'est ce que dit myope, c'est comme ça, quelqu'un qui est myope, qui plisse les yeux, c'est bien fermé. Il y a quelque chose qui ne nous est pas tout de suite accessible dans le mystère. Et ce qu'est le mystère de la foi, et la foi ouvre quelque chose du mystère qui était fermé avant le Christ. Donc je trouve que c'est intéressant de dire cette importance des rencontres. Parce que Marie, c'est l'Évangile, et l'Évangile, c'est des rencontres. Un autre point aussi qui est, dont j'aimerais vous parler, c'est la question de la louange. La question de la louange, on le voit évidemment dans le Magnificat, c'est quelque chose qui fait partie justement... de l'attitude mariale, de rendre grâce, de remercier. Et j'ai bien aimé que dans la lettre pastorale, il soit fait mention de ce que Marie a fait pour le diocèse. J'ai appris, par exemple, Marie, à plusieurs reprises, Marie s'est montrée proche de l'Église, qui est dans l'Oise, sans oublier les nombreuses grâces, dites plus discrètes, quatre guérisons liées à l'autre ont été déclarées miraculeuses. Dont évidemment la sœur Bernadette Morieux, la dernière en date, mais, plus les sanctuaires, Mario, etc. Donc je trouve ça intéressant de dire, de faire mémoire que cette terre, même s'il n'y a pas de grand sanctuaire dédié à la Vierge Marie, comme il peut y avoir dans d'autres diocèses, mais ce n'est pas une terre qui est abandonnée par la Vierge Marie. En fait, aucune terre n'est abandonnée, et non seulement ce n'est pas une terre qui est abandonnée, mais c'est des grâces ont été donnés pour l'Église qui est dans ce lieu. Parce que quand il y a un miracle, et quatre personnes miraculées, déclarées comme telles, au sein des miracles de Lourdes, ben quand il y a un miracle, c'est pour la communauté entière. Ce que vit la sœur Bernadette, c'est la communauté entière. C'est elle, bien sûr, de façon éminente, mais pas que. Et donc, de rendre grâce pour ce que le Seigneur, par Marie, a accompli et continue d'accomplir dans le diocèse. Ça veut dire aussi d'avoir un changement de regard. Peut-être aussi comme franco-français, un peu gaulois, en tout cas pour la majorité d'entre nous, on a pas mal un regard négatif. Vraiment le point noir dans la page blanche, on voit ce qui ne va pas, etc. Et c'est vrai qu'il y a des choses qui ne vont pas, on n'est pas dans le meilleur des mondes. Mais je trouve avoir une attitude mariale, c'est un changement de regard, c'est un changement de logiciel. C'est pourquoi pouvons-nous rendre grâce ensemble dans notre communauté paroissiale, religieuse, diocésaine? Pourquoi est-ce qu'on peut rendre grâce? Mais rien de faire cet exercice-là, c'est un décentrement. Parce que la louange, c'est un décentrement. La louange n'est pas spontanée. La louange, ça ne nous est pas habituel de louer. Au ciel, nous serons dans le face-à-face avec Dieu. Donc la louange sera notre vie. Et l'office divin, c'est la représentation, le signe visible de ce qu'on vivra aussi, c'est la louange de Dieu. Et donc, du coup, je trouve c'est intéressant de poser la question et peut-être de faire l'exercice en communauté, qu'est-ce qui va dans nos communautés? De quoi on peut se réjouir? De quoi on peut se réjouir? Qu'est-ce qui est source de grâce? Vous voyez, et de faire l'exercice aujourd'hui même, déjà personnellement, dans son fort intérieur, de se dire ça dans le service d'Église qui m'est confié, quel qu'il soit, qu'est-ce qui est source de grâce? Comment j'ai vu le Seigneur à l'œuvre? Et j'ai vu le Seigneur à l'œuvre de façon particulière par l'intermédiaire de la Vierge Marie, où je l'ai prié pour telle ou telle intention, je l'ai supplié sa grâce. ça, la louange, c'est vraiment une attitude mariale. Et rentrer dans une année mariale, c'est rentrer dans une année de louange. Alors, il faut voir un peu quelle forme. Maintenant, tout le monde a un peu la manière de louer est propre à chacun, mais de louer pour les fruits, ceux qui portent fruit dans mon diocèse, dans ma paroisse, dans ma communauté, dans mon service, que sais-je. Bon, ce qui est source de fécondité. Qu'est-ce qui a porté du fruit? Où est-ce qu'on a vu justement que le Seigneur, par l'intermédiaire de Marie, parce que c'est vraiment elle aussi qui est associée, eh bien, il agit dans nos vies et dans nos ministères. Et je trouve que c'est vraiment beau, ça. Mais ça demande, vous voyez, ça ne nous est pas du tout spontané. Ça demande un décalage, ça demande qu'on se laisse bousculer, que ça demande, voilà. Ça, toute louange, c'est un décentrement. Et donc de lutter aussi contre une certaine négativité. Parce qu'il y a évidemment, il y a des tas de choses qui ne vont pas, et ceci, et cela, bien sûr. Déjà en nous, on voit bien qu'on est loin d'être unifié et que la grâce est loin d'accomplir toute son œuvre. Et puis autour de nous. Alors, mais bon, c'est pas ça qu'on veut voir. Ça, je veux dire, on ne le voit que trop. On ne le voit que trop. Mais on ne voit pas assez l'action du Seigneur et comment Marie est la présente dans chaque action du Seigneur. Elle tient la main. Elle est avec. Un autre point qui a été mentionné dans la lettre pastorale, parmi les 6 orientations, si j'ai bien compris, améliorer l'accueil et l'accompagnement des personnes. Encore une fois, c'est un mystère de rencontre, le mystère de Marie et de l'Évangile, dans tout son ensemble, mais qui dit Évangile dit Marie, qui dit Marie dit Évangile, et l'accompagnement des personnes. Je vous raconte un petit exemple qui m'a marqué dans le diocèse. Et du coup, on pourrait aussi afficher, là, c'est la troisième personne qui vient me voir, qui a reçu une formation à l'écoute. Enfin, je crois que dans le diocèse, ça dispense dans la partie plus le pôle spirituel du diocèse, etc., des formations à l'écoute. En plus, cette personne avait fait une formation au clair. Et elle est allée frapper à plusieurs portes en disant « j'aimerais exercer ça ». Elle a dit « je n'ai trouvé que des portes closes ». Je n'ai trouvé que des portes closes. Parce que c'est vrai, moi, je me disais, bon, pourtant les personnes qui m'ont reçu, etc., mais c'est pas si évident. Je dis, ben voilà, j'aimerais bien exercer un ministère d'écoute. Parce que nous, on aime bien, je suis aussi un peu comme ça, par case, on tac, tac, on arrive là, tac, tac. Ministère d'écoute, on n'a pas trop l'habitude. On a l'accompagnement spirituel. On a, comme on a une charge paroissiale, etc., du coup, les gens viennent nous parler, etc., en fonction de notre charge. Mais de mettre des laïcs en situation d'écoute, et je trouve que ça demande une réflexion. C'est Notre-Dame de l'écoute, Notre-Dame de Louis, etc. C'est vraiment ça, c'est aussi une attitude mariale que d'être dans l'écoute des personnes, dans l'accompagnement des personnes. Et pourquoi pas réfléchir, comme je vous dis, 3 personnes qui m'ont successivement dans le diocèse, qui m'ont fait cette demande-là. Bon, je n'ai personne pour dire, allez, et demander, mais je ne peux rien dire de plus. Bon, parfois dans des retraites, il y a des écoutants, vous voyez, dans les retraites, ça peut exister, etc. Mais, de prendre conscience que peut-être ce ministère de l'écoute, comme il fait l'objet d'une formation diocésaine, peut-être le développer davantage. Beaucoup de gens ont besoin d'être écoutés. Beaucoup de gens, et peut-être plus en ce moment avec ce que l'on est en train de traverser, sont dans une situation de fragilité psychologique. Alors, c'est pas un psy, c'est pas. Non, c'est juste une écoute fraternelle, et puis qui se termine par un temps de prière. C'est juste ça. Mais rien que ça, c'est énorme. Je ne suis pas seul. Vous voyez, je ne suis pas seul. Donc, de développer cet accueil des personnes, cet accompagnement, accueil des personnes, qui souffre d'être sur fond de fécondité pour d'autres, hein, et de profonde, à travers l'écoute, c'est juste faire grandir la vie théologale dans le cœur de l'autre. Faire grandir la vie théologale, la vie de foi, d'espérance, de charité, de faire grandir cette vie-là. D'être au service de l'accroissance de la vie de Dieu dans l'autre. Et ça, ça passe par l'écoute. Et Marie est de loin celle qui nous enseigne l'écoute, être celui qui va permettre, simplement celui ou celle qui va permettre cette écoute et qui rappelle aussi que toute vocation, toute vie est vocation. Il n'y a pas de vie inutile. Derrière ça, c'est aussi être attentif particulièrement aux personnes plus pauvres. Hein, ça a été mentionné dans la lettre pastorale, l'option de Dieu en faveur des petits et des pauvres. Elle nous aide à nous rappeler cette proximité avec les pauvres que Dieu veut avoir avec eux à travers nous. Et ça, je trouve intéressant de dire que Marie, dans une semaine, en fait, Marie, la compassion de Marie. Après l'exaltation de la croix, c'est la compassion de Marie, le 15 septembre. Et voilà, l'écoute, c'est aussi une forme de compassion. C'est loin d'être simple, c'est aussi un décentrement, c'est le mystère pascal qui agit en nous. Mais du coup, d'être assez peut-être attentif, poser la question, comment est-ce que ce ministère d'écoute, je peux le développer, pas forcément directement, mais je peux, encore une fois, des personnes qui sont disponibles. C'est dommage de ne pas s'en servir, entre guillemets, dans le bon sens du terme. Donc de se rappeler que toute vie est vocation, que toute vocation est mission. Toute vocation est mission, il n'y a pas de vie inutile. Et puis, un point, peut-être un dernier point, sur la question, j'entends, par rapport aux prêtres, je m'adresse davantage aux prêtres, j'entends, dans les contacts que j'ai avec les prêtres, peut-être plus les jeunes prêtres, cette question de l'identité sacerdotale. Je ne vous cache pas, je ne suis pas très à l'aise avec cette question-là. L'identité sacerdotale, elle est archi-claire, je veux dire, dans le sens où, pour quelqu'un qui vous voit de plus en plus, les prêtres sont assez visibles. Hein, on est certainement sorti de ce temps d'enfouissement de l'Église et on a une plus grande visibilité, etc. Quand on rencontre un prêtre, etc., on voit tout de suite, mais pour la personne même qui... Voilà, on sait qu'il y a une idée, même si on n'est pas... Donc, du coup, je ne suis pas forcément à l'aise avec cette notion-là, comme si il y avait quelque chose d'une recherche, au fond, d'une sécurité, d'une recherche, d'une peur de se dissoudre. Vous voyez, j'entends, peut-être je me trompe, hein, mais d'une peur de se dissoudre, d'une peur de disparaître dans le paysage. Du coup, il nous faut une identité du prêtre. Une identité de prêtre, c'est alter Christus, je veux dire, c'est devenir le lieu de la rencontre. C'est celui qui vit la passion, c'est celui qui la célèbre tous les jours. Je vois mal Marie, par exemple, se préoccupant de son identité. Je vois mal Marie se préoccupant de son identité parce que je trouve que, en tout cas, à aucun moment dans les Écritures ni dans la tradition, il n'est fait mention de ça. Est-ce que derrière ça, il n'y a pas l'invitation à simplement être un lieu, notre identité chrétienne, enracinée dans le baptême, et pour ceux qui ont reçu la grâce de l'ordination, d'être un lieu de rencontre, un lieu où la vie spirituelle va éclore, où la vie de Dieu va éclore. Oui, ne soyez pas tant préoccupé de ça. Ne soyez pas préoccupé de ça. Je m'adresse particulièrement peut-être aux plus jeunes prêtres, hein, qui sont, bien sûr, ils voient les forces diminuant, ils voient la déchristianisation de la société, tout le monde, ça, on le voit, on ne fait que le constater, et il y a une peur de disparaître, de ne plus être utile, de ne pas se sentir reconnu, la question de la reconnaissance, la question... C'est pas ça qui est au cœur de vos vies. C'est pas ça qui est au cœur de vos vies. c'est d'abord le souci de cette intimité, de cette proximité d'avec Dieu et proximité avec ceux à qui on est envoyé. Comme on dit, le souci des âmes. Hein, quand on bosse dans un langage, mais qui je trouve qui est tout à fait légitime, vraiment ce souci-là, et de dire que mon identité de prêtre, elle se joue d'abord dans ce mystère de l'âme. D'abord dans le fait d'éveiller l'autre à sa propre fécondité. Parce que la fécondité vient de la croix, et comme prêtre, je suis l'homme de l'Eucharistie. Je suis l'homme de la réconciliation. Donc, voilà, je voulais vous partager ces quelques mots pour que nous puissions chacun repartir de ce lieu dans la confiance, que nous puissions nous remettre justement dans la pastorale. Il y avait une allusion à la confiance. Sans cesse, Marie fait confiance au Seigneur. Elle nous inspire cette même confiance, comme le sien, notre chemin de vie, est plein d'imprévus, incertains, rudes, obscurs, mais avec Marie, faire confiance en celui qui n'abandonne pas ce qu'il aime, ne pourra ni nous décevoir, ni nous perdre. Je pense que ces paroles-là, elles sont très claires et très justes, je veux dire, dans le sens où... et combien notre monde a besoin de confiance? Combien, vous voyez, le principe de le risque zéro, le principe de précaution, on sent que tout est, on veut être dans le... Parce qu'il n'y a pas de vie spirituelle, il n'y a pas de transcendance, il n'y a pas d'ouverture à plus grand que nous. Alors du coup, il faut tout... Voilà, on s'en sert des normes de sécurité, etc. On est harcelé par ça, la vie, bref. On comprend qu'il ne faut pas faire un barbecue sur une bonbonne de gaz, ça on peut à peu près le comprendre. Mais bon, toujours est-il que c'est pas au-delà. C'est un souci de maîtrise, et c'est là où je trouve qu'il y a quelque chose qui... Dans notre manière, nous, de voir, de fonctionner, on ne fonctionne pas comme le monde. Et ça doit se voir. Et qu'est-ce qui fait la différence? C'est vraiment la confiance. Des hommes et des femmes de foi, fides, fidei, vous savez, c'est la foi, c'est confiance, c'est fidélité. Alors c'est sur cet aspect-là que j'aimerais... vous quitter, terminer ces quelques mots, de façon à ce que chacun reparte avec une pleine assurance qu'il n'est pas seul. Qu'il n'est pas seul. Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. La Vierge Marie nous accompagne. Voici ton fils, voici ta mère. Nous ne sommes pas seuls. Et que bien souvent nos angoisses ou nos raidissements, nos volontés de contrôle, où on se laisse d'une certaine manière contaminer par le monde, et bien ces volontés de contrôle, elles sont stériles. Elles ne portent pas de fruits. C'est pas ça qui porte du fruit dans nos vies. Alors de vraiment demander au Seigneur que on reparte avec cette attitude mariale de confiance, d'abandon, de remise de soi-même, de se laisser bousculer. Mais justement, c'est là où on est témoin, c'est là où on est missionnaire. C'est comment est-ce qu'on vit ces temps bousculés dans lesquels nous sommes, comment est-ce qu'on le vit? Comment est-ce qu'on vit ces temps-là? Et le fait que nous puissions juste être en paix intérieure. Vous connaissez cette parole de Saint Séraphin de Sarov, ce saint orthodoxe, etc., qui disait « Sois en paix et tu en sauveras des milliers autour de toi. » Et je trouve ça extraordinaire, cette parole. Être en paix, et cette paix, elle vient de la confiance, elle vient comme une grâce. Elle vient de cette paix, puissions-nous aussi nous laisser transformer à l'école de Marie. Marie, c'est la mère de la paix, et bien qu'elle l'engendre cette paix en chacun d'entre nous.
Dans ses couloirs, j'entends. nous donne.